Bonjour à tous, je suis Patrice Marcadet et vous écoutez Et maintenant, le podcast qui donne la parole comme on donne la main. Nous voici déjà au troisième épisode de notre série, ma série autobiographique, Je suis vieux et maintenant. Après les éclairages du docteur Yves Fourré sur la vieillesse, nous avons écouté le témoignage inspirant de Nanou Chollet-Rigolage. Une femme résiliente et pleine de courage, toujours avide de vivre à 92 ans. Aujourd'hui, je vous présente une autre amie, Julia Perret. Son témoignage révèle un aspect surprenant du vieillissement. Contrairement aux idées reçues, vieillir n'est pas synonyme de repli sur soi, de renoncement, mais peut-être une étape décisive de la vie, pour s'ouvrir, imaginer, créer, réaliser. Julia nous montre que l'âge peut être le moment idéal pour entreprendre des projets ambitieux, affronter le public, franchir les frontières, repousser les limites, ses propres limites. En vieillissant, on s'accorde des permissions, on ose. Comme a dit Victor Hugo, à mesure que l'âge grandit, les permissions de l'esprit croissent. Et André Gide a ajouté, je ne sais pas si vous connaissez cette citation d'Hugo, « Dans la vieillesse, on obtient les permissions qu'on n'aurait jamais osé demander dans la jeunesse. » Julia Perret, peux-tu nous expliquer comment l'ethnologue que tu es est devenue une artiste qui expose en France, en Inde, par le monde.
Mais ça, à cette époque, c'était dans les années 95, 96, où il y avait au Grand Palais une exposition qui s'appelait Monumenta, et j'ai découvert un très grand artiste allemand qui s'appelle Anselm Kiefer. Et dans cette exposition, j'ai eu un choc à la fois esthétique et pour la première fois, j'ai pris conscience que non seulement la peinture existait, mais aussi ces grandes installations, ce rapport à la poésie, à l'histoire, tout ce qui était évoqué dans l'œuvre d'Anselm Kiefer. Voilà, c'était resté en moi. Et puis, quand j'étais à la retraite, ensuite... alors, ces années ont passé. J'ai acheté des livres, tu vois, sur Anselm Kiefer pour savoir qui il était, qu'est-ce qu'il faisait comme peinture, comme ces dimensions. Ce qui m'avait impressionné, c'était ces dimensions presque gigantesques, je dirais, dans le Grand Palais. Et sa puissance de création. Ça c'était resté en moi. Et puis, plusieurs années après, presque 10 ans après, quand je suis arrivée à la retraite et que j'ai commencé à être à Gap seule dans mon petit appartement, je me suis dit que j'ai fait une rencontre avec une artiste du sud de la France et j'ai avec elle commencé des ateliers de peinture. Et puis, petit à petit, dans ces années-là, je suis aussi partie en Inde et j'ai découvert un coin qui était au sud de Pondichéry, dans un district qui s'appelle le Chettinad, et j'ai découvert une religion qui s'appelle une religion animiste. Et cette religion se passe dans des petits bois sacrés, où l'on trouve des rangées de grands chevaux très décorés, ainsi que des petites statues votives dans des petites clairières parsemées dans ces bois. Et pour moi, quand je suis arrivée là, deuxième choc après Anselm Kiefer, c'était un choc à la fois émotionnel et plastique, parce que j'ai eu l'impression que j'étais devant une œuvre d'art contemporain. Et ces deux choses, quand je suis revenue après dans mon petit village là-bas de Gap, j'ai commencé à réfléchir sur ce que j'avais vu. Et comme je commençais juste dans les ateliers de peinture, je me suis dit, eh bien, je voudrais construire. Alors, c'est là que l'imaginaire peut-être rentre en compte. C'est que j'imaginais construire un lieu sacré par la peinture, et que ce lieu sacré pourrait se déplacer de ville en ville, de région en région. Et donc, je voulais que ça soit grand, en référence en Saint-Kiffer, sur des panneaux de tissu, et qui seraient comme ça dans l'espace, ainsi que aussi mettre des plus petits tableaux. Alors, j'ai représenté les grands chevaux, qui ont été mis dans l'espace, bien sûr, et puis, à Gap, j'ai pu trouver une salle qui m'a beaucoup plu, qui était une ancienne grange, qui avait été rénovée de manière très, je dirais, esthétique, où l'espace était très vaste et où je pouvais à la fois mettre ces grands panneaux dans l'espace, ces plus petits tableaux où je mettais j'ai représenté les statues votives en pastel gras, et en plus j'avais fait des petits jetons de poterie qui étaient placés dans la salle sur des plots sur lesquels les gens pouvaient prendre ce petit jeton en faisant un vœu, puisque c'était ce qui se passait dans le lieu sacré, c'est-à-dire des femmes venaient dans ces lieux sacrés déposer leur petite statue votive, et en même temps c'était un vœu qu'elles faisaient d'avoir un enfant, d'avoir la santé, d'avoir un mari, d'avoir la fécondité, toutes ces choses-là qui étaient tout un ensemble. Et donc, une fois que j'ai construit ce lieu sacré, j'ai voulu après que ce lieu que j'avais créé reparte en Inde. Et c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire j'ai pu exposer dans un palais en Inde, ou dans le Chétina, justement, d'où ces statues, tu vois, ce lieu était reparti. Et c'est comme ça, si tu veux, avec ce que j'avais en tête d'Anselm Kiefer, ce que j'avais en tête de ces grands artistes qui créent dans l'espace, que j'ai voulu refaire moi-même ces espaces sacrés.
Tu m'avoueras que c'est quand même pas banal que une dame de ton âge, qui n'est quand même pas une femme, tu n'es pas une femme très très grosse, très très puissante, très très volumineuse, tu t'attaques à un projet qui non seulement est ambitieux, puisqu'il doit s'ouvrir vers un public et vers des gens, mais tu t'attaques à une œuvre qui n'est pas une petite aquarelle dans ton coin où tu fais trois bleuets ou trois... Là, tu t'attaques à faire un lieu, un site, un espace avec une dimension religieuse, une dimension presque, j'allais dire, cosmique, et tu prends comme référence artistique un bonhomme aussi... comment dirais-je, pour parler de Kiefer, aussi puissant, aussi mégalo, enfin, je sais pas quel est mégalo, mais enfin, il construit des espaces qui sont, et des œuvres qui sont, on dirait, pharaoniques, enfin, c'est... Et toi, tu fais ça, toute seule, avec tes petits bras musclés, eh bien, je trouve que par rapport à des gens qui se disent bah, « Moi, à mon âge, je ne peux pas, je suis trop âgé pour faire entreprendre des choses », je trouve que c'est vraiment exemplaire ce que tu fais.
Alors, je ne sais pas, mais tu vois, j'ai la joie encore, à la fin de l'année, de rapporter mes chevaux, mes grands panneaux qui vont être exposés dans un petit bar, on peut dire, sur une place de Fort Cauchy en Inde. Donc mes chevaux vont revenir en Inde, ce lieu sacré va être reconstitué dans un petit espace là, mais peu importe, et ça va tomber au moment de la Biennale d'art contemporain de Cauchy. En 2024, voilà.
Ouais, écoute, c'est extraordinaire comme, comme parcours.
Alors, je ne suis pas dans la biennale, hein, je ne suis pas dans la biennale, mais ça va.
C'est synchrone.
Voilà, c'est ça, c'est synchro, comme tu dis.
Et alors maintenant, quels sont les projets que tu as?
Alors, après avoir travaillé sur le bord du monde, que vous connaissez, maintenant je travaille sur un mot qui s'appelle « réparer ». Réparer. C'est une idée qui m'est venue quand j'ai visité le cimetière d'un village, d'un très beau village dans les Hautes-Alpes qui s'appelle La Grave. C'est un cimetière ancien, qui date de la guerre de 14-18 jusqu'à la guerre de 39-45. Donc il y a des soldats qui sont enterrés dans ce petit village, dans ce cimetière. Et en même temps, c'est un cimetière tout à fait original parce que c'est pas que c'est entretenu, mais pousse là sur les tombes sans plaque, tu vois, sans plaque, pousse là des herbes de montagne, c'est-à-dire des grands chardons bleus, des clochettes, tout un tas de plantes de montagne, de fleurs de montagne. Et quand on rentre dans ce cimetière, on a l'impression d'être avec la photo de ces personnes, même des guides de montagne qui sont décédés dans la montagne, on a l'impression d'être dans un champ de fleurs et en même temps de voir ces croix qui sont en treillis à ongles, très spéciales dans les Hautes-Alpes. C'est quelque chose d'assez saisissant, de recueillement et de cosmologie, comme tu disais. Voilà. Et donc, je me suis accaparée de cette histoire de chardon bleu dans ce cadre pour le lier à mon histoire personnelle. Voilà. C'est-à-dire, d'en faire quelque chose qui serait entre des choses de chardon bleu piquant, que tu ne peux pas les couper comme ça, hein. Simplement tu les admires, et en même temps sur à la fois le, si tu veux, quelque chose qui pourrait réparer. Alors il faut que je parle de moi, c'est-à-dire dans ma jeunesse, en classe de seconde, je participe à une sortie botanique avec mon prof de sciences naturelles dans la campagne, je ne sais plus où, et on devait relever les plantes dans des haies. Et donc, on entendait le prof dire le nom des plantes. Et il fallait d'abord en couper un petit morceau et puis marquer le nom. Et dans ce nom, moi j'entends herbophome battu plus loin. Et je marque herbe, E-H-E-R, bophome, F-U-M, battu. Comme si c'était un nom latin. Voilà. Et arrive la correction, le prof me dit, c'est pas l'herbe aux femmes battues, c'est l'herbe aux femmes battues.
Ah.
Voilà, l'herbe aux femmes battues. Et donc, je vais voir sur le dictionnaire, cette herbe aux femmes battues, la plante s'appelle le tamier, c'est une plante, une liane, et cette liane a un rhizome. Et ce rhizome est important depuis le XIIe siècle parce qu'il soigne les ecchymoses. Et c'est pour ça que la plante s'appelle l'herbe aux femmes battues. C'est parce qu'on a des bleus, des coups. Quand on reçoit des coups, on peut se mettre ce rhizome qui guérit. Donc je me suis dit, à la fois cette plante évoque quelque chose, mais en fait, elle peut te guérir aussi, elle peut te réparer. Voilà. Elle peut guérir tes bleus. Alors, symboliquement, voilà. Donc, j'essaie sur ces toiles d'à la fois, si tu veux, faire passer quelques lianes dans mon travail en faisant des grands jours, en faisant des grands chardons bleus, et où se mêle à la fois la broderie, puisque je fais des jours, je fais tous les bords de ces grandes toiles. Il y en aura des grandes et des petites. Et Et il y a de quoi à voir à la fois sa blessure avec le chardon, qui est bleu quand même, donc il peut être très esthétique, très beau. Et en même temps, vous avez la plante qui peut vous réparer. Donc, il y a, dans ce que je présente, il y a à la fois l'évocation de quelque chose de piquant qui peut vous faire mal, du mal, et en même temps, une espèce de réparation. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle réparer.
J'en reste sans voix. Donc, non seulement une dimension religieuse, mais maintenant une dimension thérapeutique.
Peut-être, voilà. Bon, et en même temps, je me guéris moi-même, sûrement, en construisant ça. Mais en même temps, les jours que je fais, j'en fais des jours, je fais des jours, parce que, si tu veux, j'avais une bonne grand-mère avec laquelle je faisais des jours quand j'étais jeune. Donc, je rejoins ma jeunesse, je rejoins une sorte de constatation des mots que j'ai eus, M-A-U-X, et en même temps, aujourd'hui, je peux dire que j'en suis réparée. Voilà. Et je peux dire aux gens, allez-y, il y aura, voilà, dans cette tige de tamier ou de l'herbe aromatique que je vais passer, il y aura des feuilles, des vraies feuilles, que je vais attacher aux branches, à cette petite liane, et dans ces feuilles du tamier sont en forme de cœur. Ce qui rejoint, on revient dans le cimetière, contre le mur du cimetière, il y avait comme un grand tableau où il y avait des cœurs, plein de cœurs en métal, avec le nom des gens et leur date de naissance et de mort. Et c'est encore de la réparation. Le cœur est là. Donc moi, ça me rappelle Boltanski et ce qu'il a fait à propos de l'univers des cœurs, de tout ce qu'il a récolté comme battement de cœur, le battement de cœur du monde. Et là, voilà. Et donc, voilà, entre Boltanski, Kiefer,
et voilà. Je me suis laissé dire qu'il y avait même ton cœur dans les cœurs de Boltanski. Je ne me trompe pas, non?
Mon cœur?
Oui, il n'y a pas de battement de ton cœur?
Si, j'ai eu le battement de cœur. Oui, oui, j'ai fait l'expérience de Boltanski, ça, c'est sûr. Oui. Voilà. C'est
bon, eh bien, écoute, voilà un témoignage qui, je pense, peut inspirer des gens. Ça veut dire qu'à tout âge de la vie, on peut créer, on peut se développer, on peut fabriquer.
Et réparer. Et on peut se réparer, voilà.
Se réparer pour autant que l'on se donne la permission de faire, de défaire, d'essayer, de tâtonner, de se tromper, d'échouer, de réussir. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Si l'exemple de Julia Perret vous a intéressé, inspiré, n'hésitez pas à partager vos remarques et suggestions. Je les lui transmettrai. Vous pouvez m'adresser un message, un mail, patricemarcade@gmail.com. Je suis vieux et maintenant, la série continue, consacrée à la vieillesse. Mon micro vous est ouvert, contactez-moi. La semaine prochaine, je recevrai Claude Latrie, une personnalité rochelaise qui a été enseignant, homme politique, adjoint de Michel Crépeau, et qui, à 88 ans, a trouvé une façon bien singulière d'occuper sa retraite. Notre enquête sur la vieillesse recèle bien des surprises. À très bientôt, bonne semaine, Patrice Marcadet.